Histoire de la fondation de l'abbaye de Belloc, tel est le thème de la conférence que nous vous proposons de suivre. Elle était présentée par frère Marc Doucet à l'occasion des deux journées de célébration des 150 ans de la fondation de la communauté des moines de Belloc. C'était le 5 et 6 octobre 2025. Nous écoutons le frère Marc Doucet.
Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Je suis très intimidé devant tout cet auditoire pour parler de la fondation de Belloc. La fondation de Belloc et l'installation des moines à Belloc le 1er septembre 1875 a commencé à l'abbatie de Clérance par une messe, puis par une procession depuis l'église jusqu'à la métairie Belloc, futur monastère. Pour comprendre le sens de cette installation, il faut se reporter à la procession. Et pour comprendre cette procession, il faut répondre à quelques questions. C'est ce que je ferai pour commencer. Première question. Pourquoi était portée une statue de la Sainte Vierge ? Ce jour-là, effectivement, les paroissiens de l'abbatie de Clérance, avec des milliers d'autres personnes venues du Pays Basque, du Béarn et des Landes, accompagner les moines et la statue de la Vierge Marie de l'église de la Bastide au monastère. Un bastido, le père Michel Caillava de la maison de la Fourcade, tout près de l'église à 50 mètres, dans son histoire de la fondation de l'abbaye Notre-Dame de Belloc, souvenir, qui date d'environ 1925, nous dit ceci, je lis, « Il nous sembla surtout que c'était elle, la Vierge, la reine et souveraine maîtresse de Belloc, qui devait entrer la première dans son domaine et y être intronisée avant que ne fussent installés les moines, ses serviteurs. C'est donc la Vierge Marie qui est la première installée à Belloc, avant les moines, pour y être la reine et souveraine maîtresse. Voilà le sens fondamental de cette marche pèlerinage. » Le père Alphonse Ouricariette, Baïgori, qui, adolescent, avait été présent ce jour-là à l'installation, fait de Marie la fondatrice de Belloc. Deuxième question. Pourquoi depuis l'église de l'abbatie de Clérance ? C'est au début 1872 qu'était née, dans l'esprit des fondateurs, la détermination de fonder un monastère bénédictin. En 1873, ils obtiennent sans difficulté l'autorisation de Monseigneur l'évêque, Monseigneur Lacroix, et restent à réaliser le projet. Deux amis des futurs fondateurs, l'abbé Arbelbide et le jeune abbé Michel Caillava, vicaire à la Bastide, acceptèrent d'être envoyés au monastère de la Pierre-qui-Vire comme émissaires pour présenter le projet d'une fondation aux limites du Pays Basque, du Béarn et des Landes, et pour étudier dans quelles conditions cette fondation pourrait se réaliser. Les émissaires firent deux voyages, le premier en avril 72, un deuxième en début 73. Au retour, au cours d'un arrêt à Paris, ils purent commander une statue de la Sainte Vierge. Je cite, « Nous avions emporté avec nous la somme de 1200 francs. Qu'avaient souscrite les dames de Hasparin entre les mains de Mademoiselle Marie Ariette, et nous voulions choisir avec nous-mêmes le modèle de la statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur et l'habile ouvrier qui devait la sculpter sur bois. Après avoir visité plusieurs maisons, nous convînmes avec la maison Billet et nous recommandâmes cette œuvre au meilleur de ses ouvriers. Cette belle statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui alors avait son enfant Jésus devant elle, nous arriva quelques jours après. » Et la statue arriva quelques jours après, au futur monastère de Belloc, vers la mi-73. C'est dire qu'elle était arrivée des mois avant les futurs fondateurs de Belloc. Mais elle fut déposée à la Bastide. Pourquoi l'avoir déposée à la Bastide ? Voulant l'introniser au monastère avant l'installation des moines, il fallait bien la mettre quelque part, ailleurs qu'à Belloc. En attendant, elle est déposée chez Madame Lafourcade de Caillava, une sœur de Père Michel Caillava. Elle resta ainsi dans la famille du Père Michel Caillava à l'abbatie de Clérance. dans ces dernières citations du Père Michel, voilà, dans la citation, la longue citation que je vous ai faite du Père Michel, je relève qu'il parle d'une statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Troisième question. Notre-Dame du Sacré-Cœur ou Notre-Dame d'Issoudun sont synonymes, c'est la même chose. Issoudun est une sous-préfecture située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val-de-Loire, entre Bourges et Châteauroux. Notre-Dame du Sacré-Cœur, ce nouveau nom avait été donné à Marie par le père Jules Chevalier de la région vers 1860 à Issoudun. L'idée de ce nom serait venue à ce prêtre vers 1855. Il en aurait parlé à ses confrères pour la première fois 2 ans plus tard, en 1857, et l'aurait rendu public 2 ans plus tard encore, en 1859. Sa réflexion sur le sujet s'exprima dans son livre « Notre-Dame du Sacré-Cœur », etc. Sous l'impulsion de ce prêtre, des foules accourent maintenant à Issoudun. Mais l'apothéose, ce sera le 8 septembre 1869, en présence d'une foule énorme et de 15 évêques, le couronnement au nom du pape Pie IX de la statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur. C'est à ce dernier événement que fait allusion le récit du père Caillava. Les premières images de Notre-Dame du Sacré-Cœur représentaient Marie, les mains ouvertes pour accueillir et pour donner, avec devant elle l'enfant Jésus, âgé de 12 ans, l'enfant Jésus qui à la fois montrait son cœur et désignait sa mère. Je n'ai pas d'image, hélas, mais vous imaginez le tableau. Pourquoi à Belloc cette statue de Notre-Dame d'Issoudun ? On a vu que les deux émissaires des fondateurs de Belloc, dans leur deuxième voyage à la pierre qui vire, au retour, s'étaient arrêtés à Paris et avaient commandé cette statue. Pourquoi ont-ils commandé ce type, cette statue ? Parce que c'est la statue qu'ils avaient vue à la pierre qui vire. Et voici comment cette statue était arrivée à la pierre qui vire. La pierre qui vire, c'est comme qui dirait la maison mère de Belloc. Lorsque le père Arbelbide, l'abbé Arbelbide, arrivait à la pierre qui vire, le prieur était, depuis le 5 février précédent, Don Théodore Andrieux. Aussitôt qu'il fut prieur, il voulut manifester que la vraie prieure de la pierre qui vire, c'était la Vierge Marie. Ce père Andrieux avait une très grande dévotion à la Vierge d'Issoudun. Aussitôt devenu prieur, il écrivit au père d'Issoudun. Or, la statue de Notre-Dame d'Issoudun avait été trop grande et trop lourde pour être portée en procession lors des fêtes du couronnement. Alors, les pères en avaient fait faire une copie plus légère et transportable. Cette copie, il ne fallait pas la mettre n'importe où, elle fut envoyée, offerte à la pierre qui vire, où elle serait bien gardée. Et c'est comme ça que cette statue était arrivée à la pierre qui vire. Et c'est ainsi que, se trouvant à la pierre qui vire, les moines de Belloc, merci beaucoup, l'ont découverte. Autrement dit, la statue de Belloc a été une copie de la copie de Notre-Dame d'Issoudun. Et voilà comment c'est Notre-Dame d'Issoudun à Belloc. Pourquoi actuellement la statue de Notre-Dame de Belloc ne comporte-t-elle plus l'enfant ? Si vous voyez la statue, elle est comme ça et il n'y a pas l'enfant Jésus devant elle. Parce que, c'est le père Alphonse qui Uricariel qui exprime ça, Rome n'ayant pas apprécié cette représentation du Notre-Dame du Sacré-Cœur, parce que l'enfant Jésus y paraissait dans une attitude subalterne, au pied de sa mère. Et on enleva l'enfant. Et qu'est devenu l'enfant ? Vous avez une place là-devant. Merci. Et Quelques années plus tard, en 1899, lors de l'envoi d'un groupe de 25 moines et aspirants moines par Belloc, fondait une fondation en Argentine, le groupe emporta l'enfant Jésus tiré de la statue originelle et ils donnèrent au nouveau monastère le nom de Monasterio de El Niño Dios, l'enfant Jésus de Marie. Voilà. Autre question encore, pourquoi tant de fidèles à cette journée du 1er septembre 1875 et à cette marche pèlerinage? Les appréciations varient sur le nombre. Le père Michel Cayava parle de 8000 personnes. Le concours, je cite, le concours fut immense. Les journaux de l'époque l'évaluent à 8000 personnes. Écrivant 50 ans après l'événement, père Michel Cayava grossit-il ces chiffres pour embellir? Je pense qu'avec le recul du temps, il confond avec les chiffres des foules lors des pèlerinages diocésains à Lourdes, où le père Bastre fut invité à prêcher plusieurs fois. Je tire cela des annales, je ne sais pas comment elles s'appellent, des annales de Notre-Dame de Lourdes de 1886. Ces journaux de l'époque dont parle Cayava sont le journal L'Univers, le grand journal de tous les curés en France, de Louis Veuillot, parle de 4000 personnes. L'article est repris dans le Courrier de Bayonne. Le bulletin religieux du diocèse de Bayonne à l'époque ne donne pas de chiffres. Le père Alphonse Ricariette évoque 7 à 8 000 étrangers qui venaient s'ajouter à la population du lieu. Monseigneur Geoffrey, 24 ans plus tard, parle de 5 000 personnes. Quand le vicaire général, au nom de l'évêque malade, installa les bénédictins au milieu d'un concours de 5000 personnes, parmi lesquelles 150 prêtres, deux députés de l'Assemblée nationale et d'autres notabilités. À notre connaissance, aucun autre journal ne parle de la fondation de Belloc. Quel que fut le nombre des participants, il fut considérable. Comment l'expliquer ? Par une redécouverte du pèlerinage en ces années, surtout entre 1871 et 1875, ces pèlerinages eurent leur apogée en 1872 à Paray-le-Monial, les 20 juin, lors de la fête du Sacré-Cœur, et le 29 juin suivant, toujours à Paray, avec le pèlerinage des députés de l'Assemblée nationale. J'y reviendrai dans un instant. Et dernière question, on y a répondu hier, Madame Lerchoni y a répondu hier, je la reprends. Alors que Belloc est sur la commune d'Urte, pourquoi cette installation a-t-elle commencé à la Bastide Clérance? Parce que, tout simplement, Belloc relève administration de la commune d'Urte, mais pour le diocèse, Belloc était sur la paroisse de la Bastide Clérance. Voilà. J'ai présenté l'origine de la statue de Belloc lors de la fondation de Belloc. Un mot maintenant sur un autre aspect de la fondation, la place de la prière et des pèlerinages pour les fondateurs dans cette fondation. Dans ces années toutes proches de la guerre de 1870-71, les catholiques retrouvèrent la pratique des pèlerinages. Les assomptionnistes, avec le père Dalzon, cherchent à faire de ce mouvement un moyen d'évangélisation. Ainsi, par exemple, naît la revue Le Pèlerin. Depuis le premier pèlerinage en 1872 à La Salette, le mouvement s'était accéléré. Chez les futurs fondateurs de Belloc, alors missionnaires diocésains, c'est-à-dire les abbés Bastre, du Pérou et la Peyre, les pèlerinages ou les démarches qui s'en inspirent surprennent par leur nombre. Cela s'explique. L'abbé Bastre, le fondateur, écrit « Ne croyez pas que sitôt que le projet de Belloc a été conçu ou inspiré de Dieu, comme nous aimons à le croire, on ait songé à le mettre en pratique. » Non. On a attendu plus d'une demi-année, on a prié. On a surtout fait beaucoup prier. On a fait des pèlerinages à Lourdes, à Notre-Dame des Victoires à Paris. On a fait célébrer des messes dans ces deux augustes sanctuaires. Je voudrais rappeler quelques-uns de ses pèlerinages. En 1872, l'abbé Arbilbide, un confrère donc des missionnaires d'Asparin, en émissaire des futurs fondateurs, fit un voyage pèlerinage lorsqu'il alla pour la première fois à la Pierre-qui-Vire. Je cite. « J'arrivai à Nevers vers 3 heures de l'après-midi. Je montai au couvent de Saint-Gildard, des Sœurs de Charité à Nevers. Je demandai à voir Bernadette de Lourdes. Ce fut impossible. » En 1872, les 3 futurs fondateurs de Belloc se rendent pour la première fois à la Pierre-qui-Vire. Ils s'y trouvent pour la fête de l'Assomption, le 15 août. Le prieur de la Pierre-qui-Vire demande au père Bastre de faire l'homélie pour l'occasion. Le séjour se termine, retour à Paris. Je cite. « Nous prîmes congé de ces bons pères, et avant de revenir aux Pyrénées, nous voulûmes monter jusqu'à Paris. » L'heure à laquelle nous arrivâmes dans la capitale était très matinale. Ce fut vers Notre-Dame des Victoires que nous nous dirigeâmes pour y célébrer la Sainte Messe. À force de frapper et de tirer la sonnette de nuit, un sacristain vint nous ouvrir, et ce jour-là, nous fûmes les premiers arrivés des pèlerins de ce béni sanctuaire. Au pied de la statue miraculeuse, nos prières furent ardentes, et notre esprit était tellement rempli de la pensée de notre fondation que rien, en dehors de là, ne nous intéressa dans Paris. Aussi regagnâmes-nous bien vite les Pyrénées après avoir simplement visité quelques églises. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lors d'un passage à Paris, n'avait pas manqué de faire ce pèlerinage. Je la cite. C'est les manuscrits autobiographiques A. Nous eûmes bientôt vu toutes les merveilles de la capitale. Pour moi, je n'en trouvais qu'une seule qui me ravit. Cette merveille fut Notre-Dame des Victoires. Ah! Ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire. Je suppliais encore Notre-Dame des Victoires. Après nous être consacrés au Sacré-Cœur, dans la basilique de Montmartre, nous partîmes de Paris. Fin de citation. Quelques 30 ans auparavant, un des missionnaires d'Asparin, l'abbé d'Ourisbourg, de Briscous, avait quitté la maison des missionnaires pour entrer en 1846 aux missions étrangères de Paris. Il avait écrit le 5 novembre de cette même année à l'abbé Rigouin, missionnaire d'Asparin, je cite, « J'ai été à Notre-Dame des Victoires. J'y ai vu la statue miraculeuse de la Bonne Mère et une foule de personnes de tout âge et de tout sexe se pressaient auprès des autels. » Lorsque les abbés Bastre du Pérou et Lapeyre font ce pèlerinage, l'abbé Dufriche des Genettes, 1778-1860, le curé de Notre-Dame et des Victoires, est mort depuis déjà 12 ans. On compte alors 20 millions de membres de l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires. Au début, simple confrérie paroissiale. Il a converti sa paroisse, pourtant spécialement rebelle, paraît-il, et fait de son église l'un des sanctuaires les plus fréquentés. Lors de leur second voyage à la Pierre-qui-Vire, les abbés Arbelbide et Caillava firent le détour par Paray-le-Monial pour confier le projet de fondation au Sacré-Cœur. Nous eûmes soin de passer par Paray-le-Monial pour y faire un pèlerinage au Sacré-Cœur de Jésus. Nous y fûmes très bien reçus par l'abbé Caric, aumônier. C'était au moment des grands pèlerinages d'après la guerre de 1871. C'est aussi à cette époque de redécouverte de Marguerite Marie Alacoque qui raviva la ferveur envers le Sacré-Cœur. En 1873, il y eut de grands pèlerinages à la Salette et en août à Paray-le-Monial de juin à août. Le cantique composé pour la circonstance devait devenir célèbre. Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez Rome et la France au nom du Sacré-Cœur. En cette année 1873, exceptionnellement, les jardins du couvent de la Visitation avaient été ouverts avec l'autorisation du pape Pie IX. Ces deux émissaires rapportèrent de Paris trois boutures de noisetiers, où était apparu le Christ, qui donnèrent les noisetiers au fond de ce que nous appelons l'allée de la Vierge, qui est devant moi. En février 1873, l'abbé Lapeyre se rend à la pierre qui vire pour se joindre au petit groupe des fondateurs. Son voyage, soigneusement organisé, est une suite de pèlerinages. Je cite. « Je ne vous donne pas non plus pour le moment des détails sur notre voyage qui a été, on ne peut plus, satisfaisant. Mais voici très rapidement l'itinéraire. Betaram, où j'ai célébré la Sainte Messe. Monsieur Etchekopar, entre autres, a manifesté une bienveillance et un intérêt tout particulier pour notre œuvre. Il fera beaucoup prier, soit là même, soit à Igon. » Il y a quelques jours, un frère m'a demandé « Mais quelles étaient les relations entre Belloc et Betaram ?» Alors, je lui ai expliqué, enfin, j'ai essayé. Et puis, il m'a dit « C'est formidable. C'est une grâce que nous ayons aujourd'hui parmi nous un père de Betaram. » Merci, Saint-Michel. Bref, je continue le récit. Donc, Betaram, Lourdes, Sainte-Messe, etc. Tours, Sainte Messe à la cathédrale, encore toute parfumée de la bonne odeur du grand évêque Saint-Martin. Visite au tombeau, etc. À Blois, arrêt d'une heure. J'ai bien constaté par moi-même la continuation de la guérison opérée à Lourdes le 7 octobre sur la fameuse nez sourde-muette. Paris, Sainte Messe à Notre-Dame des Victoires. Entrevue avec M. Louis Veuillot. La fête de la purification approchait, mais impossible de combiner de manière à rouler assez vite en passant par Issoudun, Nevers et Paray-le-Monial. Il faut en faire le sacrifice. Maintenant, dans une troisième partie, je voudrais évoquer le contexte historique de cette installation, de cette Belloc, 1er septembre, et de cette ferveur mariale et de ces pèlerinages. D'abord, soulignons la dévotion au Sacré-Cœur, et je cite Montmartre. En décembre 1870, en pleine guerre avec l'Allemagne, quelques laïcs, à Tours, conçurent le projet d'élever à Paris un sanctuaire en l'honneur du Sacré-Cœur pour implorer de Dieu le salut de la France. La capitale était alors assiégée. Et pour demander à Dieu l'indépendance du pape Pie IX, qui se considérait comme prisonnier au Vatican. Depuis l'entrée des troupes piémontaises dans Rome le 20 septembre 1869. L'évêque de Poitiers, Mgr Pie, donna son accord. Pie IX, de même, le 11 février 1871. Et enfin, l'archevêque de Paris, Mgr Guibert, désigna même Montmartre, le lieu symbolique entre tous, pour un tel sanctuaire. En 1871, l'Assemblée avait déclaré d'utilité publique la construction à Montmartre d'une église en l'honneur du Sacré-Cœur, que l'on appela d'abord dans le quartier l'église de Notre-Dame de la Galette, à cause du fameux moulin à côté. Les pouvoirs publics donnèrent leur accord. Jules Simon, ministre des Cultes, accepta, etc. Je passe là-dessus parce que le temps passe. Le père Monsabré fut invité à prêcher à Notre-Dame de Paris pour faire connaître l'entreprise et la recommander aux fidèles. Il prêcha le 14 avril 1873. Et le 16 juin 1875, Mgr Guibert bénit solennellement la première pierre entourée de 10 évêques et de nombreux notables. Il n'y avait aucune représentation officielle. Le député d'Orthès, Chênelong, écrivait ce jour-là « Il me semble qu'on a posé la première pierre de notre rédemption nationale par la consécration au Sacré-Cœur. Il sera à la fondation de Belloc. » L'époque, dans le contexte toujours, l'époque est au pèlerinage. Il faut citer le pèlerinage à Paray-le-Monial du 20 juin 1872. Il marqua l'apogée des pèlerinages populaires. Il fut présidé par l'évêque d'Autun. Les personnalités, à titre strictement personnel, des mondes politiques, civils et religieux étaient en grand nombre. Parmi elles, le père abbé de la Pierre qui vire, Don Bernard Moreau. Le peuple fidèle était en foule de nombreuses paroisses de Paris et de nombreux diocèses. Au total, 35 000 ou 40 000 pèlerins avec bannières et cantiques. Ô Jésus, vous serez à jamais notre roi. Ou bien, pitié mon Dieu, c'est pour notre patrie. Autre cantique, Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur. Bon. Procession dans une grande ferveur. L'orateur du jour perçoit dans cette journée la régénération spirituelle de la France. Une semaine plus tard, le pèlerinage du 29 juin fut le pèlerinage de députés catholiques de l'Assemblée nationale. Ils firent, par la bouche du député Belcalstel de Haute-Garonne, une consécration de la France au Sacré-Cœur. Et le député béarnais, Charles Chénelon, lut un télégramme envoyé pour l'occasion par le pape Pie IX. L'époque était au pèlerinage et l'époque était aussi à la laïcité. Dans ces années toutes proches de la guerre de 1870, où les catholiques retrouvèrent la pratique des pèlerinages, les assomptionnistes, avec le père Dalzon, cherchèrent donc à faire de ce mouvement un moyen d'évangélisation. Sur le contexte, j'avais trop écrit, je voudrais le contexte historique. Je rappelle que le président de la République, c'est Thiers, qui va être président de la République donc de août 1871 à mai 1873. C'est le moment du projet de Belloc. Belloc naît. Et je rappelle, c'est la période de Léon Gambetta, 1838-1882, qui sauva la France lors de la guerre de 1870-71, et aussi l'auteur du fameux programme de Belleville, 1869. Je crois que j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, je passe. Un historien éminent, dans le titre de son ouvrage sur Gambetta, a voulu décrire l'homme en deux mots qui le résumeraient. Gambetta, la patrie et la République. Modestement, j'en ajouterai un troisième, si je peux me permettre. La patrie, la République et la laïcité. En ce qui concerne Belloc, la première pensée de fonder un monastère remonte donc à fin 1871 ou début 1872. Et le projet que ce monastère soit un monastère bénédictin a été clairement formulé au début 1872. Pendant ces courtes années, les fondateurs de Belloc, si peu versés qu'ils fussent dans les affaires publiques, politiques, ne pouvaient pas rester indifférents au contexte politique. La fondation projetée en dépendait, de quelque manière. Une illustration de ce climat d'opposition, de tendance, est bien donnée par le grand dictionnaire universel que publie Pierre Larousse dans les années 1860. Je me permets de vous lire une page. Le Second Empire, qui fut à certains points de vue une réaction cléricale contre la République de 1848, donna lieu à une recrudescence de pèlerinage. Ce vagabondage religieux n'atteignit cependant pas une grande intensité. En dehors de soi-disant miracles de la Salette, des prédications du curé d'Ars, qui attirait quelques centaines de dévots, et de quelques voyages en Terre Sainte organisés par une agence spéciale, c'est l'allusion à l'œuvre du père Vincent Bailly et des rédemptoristes, il ne resterait pas grand-chose à citer de cette époque. Les années 1872 et 1873 ont enfin vu renaître, sur une grande échelle, la fureur des pèlerinages en France. L'aventure mystérieuse de la Vierge Bleue à Lourdes et quelques autres miracles encore plus suspects en furent l'occasion ou le prétexte. La vraie raison fut le désir de protester en faveur du pape roi, retenu prisonnier du Vatican comme on disait, par une métaphore assez hardie, et aussi un peu aussi pour manifester contre la République. Le fait, nié d'abord, est devenu évident par des cris séditieux en mains endroits, des couleurs factieuses arborées avec affectation. Il s'ensuivit même quelques rixes et l'on accusa les opposants d'avoir manifesté sur le dos des pèlerins. Ceux-ci n'étalèrent qu'avec plus de courage leur croix rouge sur leur poitrine, leur gros chapelet autour de leur cou, et chantèrent avec plus d'entrain « Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, sauvez Rome et la France ». Un jour, 110 députés accomplirent un pèlerinage à la Vierge Noire de Chartres, et les plus hardis d'entre eux osèrent y porter les bannières, le cierge à la main. Quelques esprits timides s'effrayaient de ces manifestations si bizarres à notre époque et gourmandèrent le gouvernement qui tolérait ce qui leur paraissait être un scandale. Le fait est cependant que cette tolérance, bienveillante ou non, s'est trouvée être de la bonne politique. 1873 a vu de nombreux pèlerins français et étrangers, anglais même, un peu partout, mais surtout à Paray-le-Monial. En 1874, on ne parla presque plus de toutes ces manifestations, malgré les efforts combinés du comité général autorisé par le pape et un organe spécial, le pèlerin, pour réchauffer le zèle des fidèles. Le peuple français devait comprendre et a compris que ces promenades en train de plaisir, que ces gueuletons sur l'herbe, que cette poésie de mirliton, que ce commerce usuraire d'objets bénis par des industriels éhontés étaient sur l'herbe, que ces nuits passées à la belle étoile, non sans quelques dangers pour la santé et les bonnes mœurs, les pèlerinages à ce point de vue ont une ancienne et détestable réputation, que tout cela, disons-nous, était ridicule, et d'ailleurs complètement étranger à la véritable dévotion comme à la scène politique. On s'est décidé avec raison à abandonner les grottes plus ou moins miraculeuses à leur solitude naturelle, à ne plus réveiller leurs échos par des cris séditieux, à prier enfin dans son église paroissiale et à manifester par le scrutin seulement ses opinions politiques. Excusez cette longue citation, mais c'est à ce moment-là que naît Belloc. Enfin, une troisième partie pour... Je vous propose maintenant d'en rester là avec le contexte historique de la Fondation pour voir la confiance des moines de Belloc en Marie tout au long de cette histoire. Au départ, les moines de la pierre qui vire n'étaient pas partisans d'une fondation, vu que eux-mêmes n'avaient guère l'ancienneté suffisante, pensaient-ils, dans la vie monastique. D'ailleurs, s'ils avaient à fonder dans le sud-ouest, un projet se présentait déjà. Faire revivre l'antique abbatiale de Saint-Savin du XIIe siècle dans les Hautes-Pyrénées. Or, le jour et à l'heure où les jours et à l'heure, ils ont sonné à la porte en même temps. Le jour et à l'heure où les émissaires de Belloc étaient arrivés à la pierre qui vire, s'était présentée une camionnette qui les avait précédés sur une longue route. Cette camionnette apportait au monastère de la pierre qui vire la copie de la Vierge Marie d'Issoudun. Au cours de son séjour à la pierre qui vire, l'abbé Arbelbide surprit un jour cette réflexion dans la bouche du père prieur, le père Théodore Andrieux, prieur qui avait la grande dévotion à Notre-Dame d'Issoudun. Il disait à d'autres moines, « Ah, je savais bien que Notre-Dame du Sacré-Cœur n'allait point nous arriver les mains vides. C'est elle qui nous apporte cette fondation. Il faut l'accepter. Elle réussira. » Lorsque la fondation fut acceptée, décidée et entreprise, les aménagements et constructions commencèrent à Belloc, tandis que les futurs moines allèrent se former à la vie monastique. Leur formation terminée à la pierre qui vire, les futurs moines de Belloc étaient revenus. Le père abbé de la pierre qui vire, et visiteur de la province française, de notre congrégation monastique, dont Bernard Moreau, arrivait lui aussi avec les moines. L'avant-veille de la procession, le 30 août, il choisit pour titulaire du monastère de Belloc le cœur immaculé de la Vierge Marie. Par la suite, la Vierge Marie a présidé à toutes les étapes de l'évolution du monastère. Après l'installation des moines, une autre statue, une autre représentation de la Vierge Marie fut placée au-dessus de la porte d'entrée du monastère de Belloc. Elle était assise, portant sur ses genoux l'enfant Jésus, lui-même portant dans ses mains une maquette du monastère. Au-dessous de la statue, sur une plaque de marbre, avec des lettres rouges bien visibles, était l'inscription « Ils m'ont choisi pour gardienne ». C'est une formule un peu traditionnelle dans le monastère bénédictin et cistercien. La Vierge Marie a bien gardé la communauté. Celle-ci, en 150 ans, est morte au moins trois fois. La première en 1903, lorsque, rien n'étant prévu, on eut 15 jours pour se soumettre à la loi, au décret, plus exactement, supprimant les communautés religieuses, soit pour partir. La communauté choisit de partir. En fait, elle explosa dans toutes les directions. C'est un miracle qu'elle se soit reconstituée et qu'elle existe encore. La seconde fois, ce fut lors de la déclaration de la guerre, le 2 août 1914. Le 2 août 1914. La communauté, déjà affaiblie depuis 1903, fut réduite à quelques vieux moines en exil, avec en charge l'école monastique. Encore un miracle que Belloc ait perduré. Et la troisième fois, ce fut lorsque, en décembre 1943, la Gestapo amena l'abbé, le prieur et l'hôtelier, une quarantaine de moines étant déjà sous les drapeaux ou prisonniers en Allemagne. La communauté, très affaiblie, était en plus décapitée. Je devrais ajouter que notre fondation d'Afrique au Bénin est morte elle aussi, et elle a retrouvé vie 10 ans après, en 2003. Encore un miracle. Pendant ces 150 ans de son histoire, Belloc a toujours fêté Marie avec joie et ferveur et éclat aux fêtes liturgiques. Jusqu'à Vatican II, les moines non-prêtres célébraient l'office avec des « Je vous salue Marie ». Lors de fêtes ou de jours que l'on voulait marquer spécialement, le petit office de la Sainte Vierge était récité par plusieurs moines en plus de l'office communautaire. Avec le chemin de croix que certains faisaient tous les jours, j'en ai vu de ces moines, le chapelet était prière absolument courante, évidemment. Qui d'entre nous, par exemple, n'a pas été édifié par le frère Jean-Baptiste Millet sur son tracteur? Je cite quelqu'un que tout le monde a pu connaître. Le chapelet constamment à la main et le cœur certainement trouvé, tourné vers notre Mère du Ciel. J'ai personnellement connu les litanies de la Sainte Vierge quotidiennement récitées au milieu du jour et le chapelet en communauté à la fin des vêpres. Personnellement aussi, dans mes quelques dizaines d'années passées au monastère, je n'ai jamais perçu de piété mariale déviante. Ceux qui, parmi nous, en avaient le don, ont su exprimer cette foi mariale du vieux Belloc, et du Belloc par la suite. Le père Jean-Marie Burucois l'exprima avec son sens poétique dans deux petits livrets. D'abord, dizaines, poèmes à Marie. Il s'émerveille durant 10 mystères de Marie depuis l'Annonciation jusqu'à son Assomption. Il poursuit sa méditation contemplative dans « Regardez Marie » qu'il publia en 2001. Le père Thomas d'Assens, 1902-1986, professeur de théologie et de philosophie, mais aussi prédicateur populaire, comme prédicateur de prêtres et d'évêques, sut parler avec une grande justesse des mystères pourtant indicibles de Marie. En particulier, il savait montrer comment, je le cite, « les prérogatives de la Vierge ne se sont affirmées dans l'Église que pour permettre de mieux distinguer et de mieux défendre les éléments de foi qui concernent son Fils. » Ceux qui ont eu la chance d'entendre Père Thomas le retrouveront, je pense, dans ces quelques lignes que j'extrais d'un de ses enseignements sur Marie. Il s'adresse à... Je cite. Il s'adresse à ceux qui l'écoutent. Qui était la mère de Jules César? Et celle d'Alexandre le Grand? Et celle de Charlemagne? Et celle de Platon? Et celle d'Aristote? Et celle d'Hitler? Et celle de Lénine? Et celle de Mao Tse-tung? Et celle de Karl Marx? Et celle d'Einstein? J'aurais pu continuer la liste à l'infini, sans obtenir de réponse. Vous ne savez pas? Moi non plus. Et cela n'a aucune importance. Les mamans de ces célébrités, vous pouvez les ignorer. Cela ne change rien à rien. Elles ne sont que des femmes, comme toutes les autres, et leurs fils ne sont que des hommes, comme tant d'autres. Mais voilà quelqu'un qui vient nous dire « Moi, je suis homme et Dieu. Et voilà Marie qui est ma mère. » Ces mots, n'est-il pas vrai, ont toute l'allure d'une provocation. C'est que justement, il n'est ni Dieu seulement, ni homme seulement, mais simultanément et inséparablement et totalement homme et Dieu. Et elle est simultanément et inséparablement et totalement mère de l'homme Dieu. C'est un comble. Lui sans elle n'est plus lui. Elle sans lui n'est plus elle. Chacun de ces deux êtres est la garantie de l'identité de l'autre. Fin de citation. Le poète basque, Père Xavier Diars, Iratzeder, n'a laissé aucun poème sur Marie ou à Marie. Mais le Cantus Adisait, le Magnificat en basque, avec son ton psalmodique du père Gabriel Lerchundi, est une pièce, traduction et musique, véritablement inspirée. Qui ne passera pas, m'a dit un jour un confrère. Il témoigne d'un amour ardent de Marie et exprime un total dévouement au peuple de Dieu. Il suffit, pour s'en convaincre, de l'entendre une seule fois chanter aux vêpres dans n'importe quelle assemblée. Je ne veux pas, il est temps de conclure maintenant, je ne veux pas terminer par une envolée lyrique ou poétique. Je voudrais conclure par une prière. Vierge Marie, souvenez-vous de cette inscription au-dessus de la porte du vieux Belloc, est toujours inscrite dans nos cœurs. Ils m'ont choisi pour gardienne. 150 ans après tous ces faits que nous avons rappelés, Seigneur, merci de nous avoir appelés à mettre nos pas dans ceux de ces saints moines fondateurs de Belloc. C'est toi qui leur as inspiré toutes ces actions que nous avons rappelées. Nous les avons rappelées pour nous souvenir de ce que tu as fait alors pour eux et pour tant d'autres par eux. Nous les avons rappelées pour nous rappeler que ce que tu as fait pour eux, tu continueras à le faire pour nous. Dans le Belloc d'aujourd'hui, dans une situation difficile, Belloc vendu, nous sommes un petit reste. Pour nous souvenir de ce que tu as fait pour tous nos frères et sœurs des autres congrégations religieuses du diocèse, donne-nous, donne à tous les successeurs de tous ces fondateurs en ce 19e siècle dans notre diocèse, aux bétharamites, aux bénédictines, à tous et à toutes, de savoir tirer les enseignements des faits passés pour continuer à te chercher, à te connaître, à te servir dans nos frères, à ta suite, avec toi, pour toi. Merci de votre attention.
Vous venez d'entendre l'histoire de la fondation de l'abbaye de Belloc, conférence présentée par frère Marc Doucet, enregistrée le 6 octobre 2025 à l'occasion des célébrations marquant les 150 ans de la fondation de la communauté des moines de Belloc.